Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Eh oui, tout est dit avec ce générique. C'est Biotine, bien sûr, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net, hein, pour ceux qui nous écoutent sur Internet. En direct ou en différé, vous avez bien sûr la possibilité de récupérer tous les podcasts de toutes les émissions. Et sur le 94.9, pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, dans les voitures, dans les cuisines. C'est bientôt l'heure de déjeuner. Bon appétit. Dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, le 94.9 vous permet également d'écouter Graphite et notamment cette émission Biotine qui nous permet un petit peu de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de ce 19 avril. 19 avril, au niveau de l'éphéméride, et donc au niveau des avancées scientifiques dans l'histoire, il y a eu pas mal de choses. Le 19 avril 1932, le physicien Robert Goddard fait voler la première fusée stabilisée par gyroscope et volée. En 1932 quand même, c'est assez intéressant. 1971, c'est la mise sur orbite, de la première station spatiale, elle s'appelait Salyut 1. Et en 2021, on en avait parlé il y a 4 ans hein, dans cette émission, l'hélicoptère Ingenuity est le premier engin motorisé à effectuer un vol stationnaire dans l'atmosphère de Mars. Ah oui, Mars, on a beaucoup parlé de Mars la semaine dernière. Il y a pas mal d'actualités que je voulais évoquer la semaine dernière. On n'avait pas eu le temps parce que l'émission passe tellement vite en votre compagnie qu'il y a encore quelques articles de la semaine dernière que je n'avais pas évoqués et que j'évoquerai dans cette émission. 19 avril 1912, c'est la naissance de Glenn Theodore Seaborg, physicien atomiste américain. Il a obtenu le prix Nobel de chimie. Il a découvert l'élément sur lequel repose la première bombe atomique, des isotopes qui étaient utilisés pour traiter les patients atteints de cancer. Il a également découvert 10 éléments qui figurent dans le tableau périodique. Il s'appelle donc Glenn Seaborg. Il devient un expert à l'Université de Californie à Berkeley dans la relation avec le grand physicien Robert Oppenheimer. Ah, Oppenheimer, oui, ça nous dit quelque chose. Oppenheimer était si rapide et si érudit qu'il avait l'habitude de répondre avant même que la question soit terminée. Donc ses réponses étaient plus fouillées que de besoin, ce qui les rendait vraiment peu utiles. Et Seaborg, il apprit donc à formuler ses questions à Oppenheimer de manière très succincte et précise pour avoir les bonnes réponses. Glenn Theodore Seaborg est donc né un 19 avril 1912. Il est mort en 1999. Décès le 19 avril 1882 de Charles Robert Darwin. Ah, Darwin, ça nous dit quelque chose, hein, naturaliste, paléontologue britannique. Les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie, avec notamment son ouvrage « L'origine des espèces » qui est paru en 1859. Il est célèbre au sein de la communauté scientifique de son époque pour son travail sur le terrain et ses recherches en géologie. Il a adopté l'hypothèse qui avait été émise 50 ans auparavant par un Français qui s'appelle Jean-Baptiste de Lamarck, selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou de quelques ancêtres communs. Et donc, il a soutenu avec Alfred Wallace que cette évolution était due au processus de sélection naturelle. Darwin, il a vu de son vivant la théorie de l'évolution acceptée par la communauté scientifique et le grand public. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Alors que sa théorie sur la sélection naturelle a dû attendre quand même les années 1930 pour être généralement considérée comme l'explication essentielle du processus d'évolution. Au XXIe siècle, elle constitue en effet la base de la théorie moderne de l'évolution. Sous une forme modifiée, la découverte scientifique de Darwin reste le fondement de la biologie car elle explique de façon logique et unifiée la diversité de la vie. Décès donc le 19 avril 1882 de Charles Darwin. Et donc c'était important aujourd'hui d'évoquer sa mémoire en ce 19 avril. Alors on va donc un petit peu revenir sur les articles que j'avais prévus la semaine dernière. Je vous avais promis d'évoquer la fin de Skype, une aventure qui se termine après 22 ans d'expérience. Hein. Skype fait ses adieux. Microsoft a récemment officialisé la nouvelle. Hein, le célèbre logiciel de communication va s'éteindre pour de bon dans quelques jours, le 5 mai prochain. Pourtant, l'application reste encore relativement populaire. Hein, d'après les derniers chiffres fournis par Microsoft, la plateforme comptait il y a 2 ans 36 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc, quand même pas anodin, ça fonctionnait encore. Et puis, Skype, c'est quand même pas rien, parce que c'est presque un symbole. Hein. Ça a été lancé en 2003 par deux entrepreneurs, un Danois, Janus Friis, et un Suédois, Miklas Zennström. Skype est arrivé avant l'ère des smartphones, quand même pas l'oublier. Hein. C'est vrai que Skype, c'est quand même quelque part toute une époque. La plateforme est rapidement devenue un pionnier dans la téléphonie en ligne, notamment grâce à ses fonctionnalités de visioconférence et ses appels gratuits entre utilisateurs du monde entier. Très vite, Skype s'est imposé comme une solution économique face aux appels téléphoniques traditionnels, bien sûr. Microsoft souligne d'ailleurs l'impact majeur de la plateforme dans la transformation des communications modernes. Dans un communiqué récent, l'entreprise américaine exprime son honneur d'avoir participé à cette aventure et rappelle à quel point Skype a joué un rôle clé dans de nombreux moments importants. L'une des premières raisons est qu'au fil des années, la concurrence est devenue de plus en plus féroce. Il y a eu Zoom, WhatsApp, Google Meet, Slack et puis aussi Teams, un autre logiciel développé également par Microsoft, qui ont progressivement pris le leadership sur le marché de la communication en ligne. Microsoft annonce alors vouloir concentrer ses efforts sur Teams et justifie sa décision par un désir de rationaliser ses offres de communication grand public et de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Et donc la firme américaine qui a racheté Skype en 2011 va privilégier désormais Teams, qui est sa propre création lancée elle en 2016. Teams connaît par la suite une forte croissance, notamment durant la pandémie de Covid, bien sûr une période où le télétravail et la communication à distance ont explosé. Aujourd'hui, Microsoft affirme que des centaines de millions d'utilisateurs utilise déjà Teams à travers le monde. Et si l'entreprise n'a pas communiqué les derniers chiffres d'utilisateurs de Skype, elle déclare néanmoins que Teams compte actuellement 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et donc, son objectif, il est quand même assez clair maintenant, faciliter la transition des utilisateurs de Skype vers Teams. Alors, est-ce qu'avec la fin de Skype, Microsoft prend un risque? C'est la question que se pose Futura Science dans cet article. Et si l'entreprise perdait ses utilisateurs fidèles? Ben, en réalité, ce n'est pas si certain. À l'origine, Skype était conçu pour le grand public, mais il a rapidement évolué pour répondre aussi aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, il y a des plateformes comme Zoom ou Google Meet qui dominent le secteur, surtout dans le milieu professionnel et social. Et ces outils offrent une combinaison de fonctionnalités modernes, la collaboration en ligne, la messagerie instantanée, les appels audio et vidéo, la gestion des fichiers. Et Skype, qui a été donc racheté par Microsoft il y a 14 ans, s'est progressivement intégré à Teams. Et Teams, qui a davantage axé sur la productivité et le travail collaboratif, a donc pris la place de Skype dans le monde professionnel, tandis que son usage purement personnel a lui diminué. Autrefois incontournable pour les appels vidéo et les discussions, Skype a cédé la place à des alternatives plus simples et mieux adaptées aux habitudes actuelles, comme les messageries instantanées ou les réseaux sociaux. Et en résumé, la disparition de Skype n'est qu'un reflet de l'évolution vers des outils plus modernes, mieux intégrés et plus en phase avec les besoins d'aujourd'hui, tant pour le travail que pour la vie personnelle. C'est donc la fin de Skype et le début d'une nouvelle ère pour la communication en ligne. Le logiciel Skype s'éteindra donc le 5 mai prochain. Et effectivement, ça nous rappelle toute une époque, bien sûr. On avait peut-être un peu oublié Skype, hein, pour ceux qui utilisent maintenant d'autres logiciels, d'autres applications. Mais il y avait eu Skype, hein, pendant très longtemps, bien évidemment. On parle de la fin de Skype et la semaine dernière, j'avais aussi cet article qui pouvait peut-être promettre la résurrection de BlackBerry. Hein. Les BlackBerry qui ont marqué l'histoire du smartphone. L'une des caractéristiques les plus marquantes, c'était bien sûr la présence d'un clavier physique complet. Hein. Bien sûr, les appareils avaient leur propre système d'exploitation ainsi qu'une messagerie unique, hein, BlackBerry Messenger. Mais ces appareils n'ont pas résisté à l'arrivée des smartphones avec des grands écrans tactiles. Il y a une nouvelle rumeur qui voudrait qu'une entreprise britannique ait décidé de faire revivre les BlackBerry, à la plus grande joie des nostalgiques, bien évidemment. Alors, si vous comptez parmi ces nostalgiques, eh bien, il ne faut quand même pas sauter de joie trop vite. Hein. La source des informations, c'est pas nécessairement bien encore établi. Hein. On n'a pas, pas nécessairement de grandes confirmations. Dans une publication qui a été effacée, on indique qu'on n'est pas en mesure de nommer l'entreprise en question à cause d'un accord de non-divulgation. C'est quand même toujours un peu louche tout ça, bien évidemment, mais quand même, on aurait un petit peu... On suppose que la firme en question cherche des financements. Alors le premier appareil qui serait un clone du BlackBerry classique avec un clavier QWERTY, pourrait tourner sous Android 15 avec de l'intelligence artificielle générative. Il y aurait bien sûr un clavier physique qui serait de type capacitif, plus réactif, plus durable aussi, nous dit-on. Le constructeur aurait une feuille de route pour d'autres smartphones munis de claviers et chercherait un financement à hauteur de presque 18 millions d'euros. L'utilisateur, en fait, on se demande d'où vient un petit peu cette information, mais on n'a pas encore totalement bien les sources de tout cela. Le constructeur viserait apparemment plutôt le haut de gamme, nous dit-on. Difficile de savoir si l'histoire est vraie ou alors complètement inventée, parce que s'il y avait effectivement une entreprise qui souhaite reproduire les BlackBerry, il risque effectivement d'y avoir des fuites d'informations. Donc là, ça commence un petit peu à faire du... d'espionnage industriel, on va dire. Mais l'idée n'est pas folle. C'est Maliki Innovations qui détient les brevets de BlackBerry et il s'était déjà montré par le passé ouvert à des accords pour leur utilisation. Donc voilà. Info Intox nous dit Futura Science, une entreprise voudrait donner une seconde vie au BlackBerry. C'est vrai que c'est assez... Alors, Skype et BlackBerry, ça nous rappelle quand même une époque... On va dire assez lointaine maintenant, effectivement. Mais pourquoi pas? Après tout, ça pourrait être possible, bien évidemment. Vous écoutez Graphite, c'est l'émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. De l'information scientifique et puis aussi un peu de musique.
Cualquier que te ven a mí, oh, a mí, oh.
Macoma, c'était Jemba Groove sur l'antenne de Graphite. On continue ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Et là, il y a vraiment un article, je trouve, fascinant qui parle de criminalistique moderne. Et cette criminalistique moderne repose depuis longtemps sur un principe fondamental qu'on connaît tous, parce qu'on a tous vu des films, on a tous suivi des enquêtes policières. Chaque empreinte digitale est unique, non seulement d'un individu à l'autre, mais aussi d'un doigt à l'autre. Et cette vérité scientifique qui est le pilier de nombreuses enquêtes criminelles et de systèmes d'identification vient d'être profondément remise en question par des chercheurs de l'Université de Columbia qui ont démontré grâce à l'intelligence artificielle que les empreintes digitales possèdent une signature commune à tous les doigts d'un même individu. L'équipe de Columbia a donc entraîné une intelligence artificielle sur des centaines d'empreintes digitales provenant de différentes personnes. Et au fil de cet apprentissage, eh bien, l'intelligence artificielle a développé une capacité stupéfiante, identifier avec une précision qui dépasse 80% que des empreintes de doigts différents appartenaient à une même personne. Cette percée scientifique publiée dans la revue Science Advances dévoile que l'intelligence artificielle ne se limite pas aux minuties traditionnellement utilisées dans ce qu'on appelle la dactyloscopie. Ces minuties qui peuvent être des bifurcations, des îlots, des terminaisons de lignes, elles sont depuis toujours les points de repère des experts humains pour identifier une empreinte digitale. Et bien, l'un des chercheurs impliqués dans cette étude qui s'appelle Gabriel Guo, il explique « Nous parlons d'identifier 5 doigts d'une même main pour les faire correspondre aux 5 doigts de la main correspondante. L'intelligence artificielle a réussi à observer ce que l'œil humain ne peut pas détecter, c'est-à-dire des similitudes dans les angles et les courbures près du centre des empreintes digitales. » Et donc cette découverte, elle pourrait transformer radicalement les enquêtes criminelles, parce que on peut imaginer un scénario jusqu'ici invraisemblable. Relier une empreinte trouvée sur une scène de crime à un suspect dont on ne possède que l'empreinte d'un autre doigt. Eh bien, il y a des milliers d'affaires non résolues qui pourraient être potentiellement réouvertes. Les implications pour les cold cases sont particulièrement prometteuses. Combien d'empreintes dorment dans des archives policières sans avoir pu être reliées à un suspect ? Eh bien, cette technologie pourrait établir des liens entre différentes affaires où des empreintes de doigts différents, mais appartenant à la même personne, ont été retrouvées. C'est quand même totalement fascinant. Et donc, on est un petit peu enthousiaste. Il n'empêche que Gabriel Guo, lui, tempère un petit peu l'enthousiasme immédiat. Avec le taux actuel de réussite de 80%, cette méthode n'est pas pour une utilisation devant un tribunal, dit-il. Mais bon, l'équipe reste quand même assez confiante, parce qu'avec un entraînement plus approfondi, l'intelligence artificielle pourrait atteindre une précision quasi parfaite. Les applications de cette découverte, elle dépasse largement le cadre judiciaire. Nos appareils électroniques pourraient bientôt reconnaître leur propriétaire, quel que soit le doigt utilisé pour le verrouillage biométrique. Et puis, il y a aussi des avantages pour l'utilisateur quotidien qui serait assez multiple. Le déverrouillage donc des appareils avec n'importe quel doigt, la sécurité renforcée contre les tentatives d'usurpation, la simplicité d'utilisation accrue au quotidien, la fiabilité supérieure dans divers environnements. Donc effectivement, c'est assez important. C'est une application plus facile que la reconnaissance policière, c'est ce qu'affirme Gabriel Guo. Donc, l'environnement contrôlé d'un capteur d'empreintes sur smartphone offre des conditions idéales pour cette technologie, contrairement aux empreintes partielles ou détériorées sur les scènes de crime. Et cette innovation n'a d'ailleurs pas échappé aux géants technologiques, bien évidemment, parce que l'équipe de recherche de l'Université de Columbia confie avoir reçu plusieurs marques d'intérêt de plusieurs sociétés, tandis que la technologie fait l'objet d'un processus de brevetage. On va donc pouvoir déposer un brevet pour cela. Cette découverte, en fait, elle bouleverse un principe fondamental de la dactyloscopie qui était établi depuis le 19e siècle. Si chaque empreinte digitale reste unique dans sa configuration précise, l'existence d'une signature commune à tous les doigts d'un individu ouvre quand même des perspectives assez fascinantes. La science de l'identification par empreinte digitale entre donc dans une nouvelle ère, où l'intelligence artificielle révèle ce que l'œil humain ne pouvait pas percevoir. Et donc cette avancée rappelle comment l'intelligence artificielle transforme bien sûr profondément nos connaissances scientifiques les plus établies. Ce que l'homme a considéré comme vérité absolue pendant plus d'un siècle se trouve aujourd'hui nuancé par les capacités d'analyse supérieure des algorithmes. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant et qui pose question dans cette découverte. Il y a une nouvelle page donc qui s'écrit dans l'histoire de l'identification biométrique. Mais voilà, les empreintes digitales, on aurait donc une signature commune au niveau des empreintes digitales de tous les doigts. C'est assez troublant, bien évidemment, parce que ça peut avoir des répercussions assez fortes, bien sûr. On suivra cela. Autre information, là on va être dans un point de vue un petit peu plus médical. Il y a des chercheurs américains qui ont mis au point un nouveau test olfactif qui serait susceptible de révolutionner le dépistage des troubles cognitifs. C'est une méthode assez simple qui permettrait d'identifier précocement les personnes à risque de développer la maladie d'Alzheimer. C'était une annonce faite la semaine dernière, ce qui a quand même pas mal fait parler. Il y a quand même pas mal d'articles qu'on a pu trouver sur différents sites. Le dépistage des troubles cognitifs pourrait-il passer par le nez ? Eh bien, c'est ce que suggère une étude qui a été publiée dans la revue Scientific Reports. C'est une équipe de recherche de Boston aux États-Unis qui s'est particulièrement intéressée au dysfonctionnement olfactif comme signal d'alarme précoce pour diverses maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, et ils ont ainsi mis au point un test nommé Aroma Brain Health Test qu'ils ont soumis à des participants, certains souffrant de troubles cognitifs légers et d'autres non. Et donc les chercheurs ont constaté que le fait d'identifier une odeur, de la mémoriser ou de la dissocier d'une autre, eh bien, ça diminuerait avec l'âge. Et par ailleurs, les adultes présentant des troubles cognitifs légers obtenaient des scores plus faibles en matière de discrimination et d'identification des odeurs. Et donc les chercheurs expliquent, nos résultats suggèrent que les tests olfactifs pourraient être utilisés dans les contextes de recherche clinique chez les adultes âgés pour prédire le risque de maladies neurodégénératives. Cela nous permettrait d'intervenir des années avant l'apparition des symptômes de perte de mémoire. C'est quand même assez fascinant. C'est quand même pas la première fois que les scientifiques avancent la piste olfactive comme un marqueur de démence. L'année dernière, il y a des chercheurs du CNRS qui précisaient que 80% des patients atteints par la maladie d'Alzheimer souffre d'un trouble de l'odorat, ce qui en fait un signal précoce de la maladie. Donc effectivement, on se rend compte de plus en plus que ça pourrait être une piste. Alors, il y a du conditionnel, hein, bien sûr, hein, évidemment, on n'est pas là en train de dire que les choses sont maintenant actées et définitives, mais c'est une piste nouvelle, inédite, surprenante et intéressante, qui va bien sûr être continuée à être investiguée, bien sûr.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Il y a des petites brèves qui sont assez intéressantes dans les revues de vulgarisation scientifique, comme Sciences et Avenir, par exemple, ou Sciences et Vie. Et ces petites brèves, elles permettent voilà, d'avoir une information sur des sujets essentiels ou non, d'ailleurs, mais totalement abordables, assimilables, parce qu'elles sont très souvent aussi illustrées et peuvent être assez intéressantes. Par exemple, des petites brèves dans le Sciences et Avenir du mois d'avril, que l'on peut découvrir dans cette revue, il y a une équipe qui a mis au point une langue électronique. C'est une sorte de languette en polymère qui se place dans la bouche et la composition chimique d'un aliment est convertie en données numériques. Elle est transmise dans une pompe qui puise dans les réservoirs les 5 saveurs de base sous forme de liquide et l'envoie dans la languette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est capable quelque part de restituer le goût en réalité virtuelle. Alors, rien que cette phrase, déjà, on bloque un peu. Restituer le goût, le sens du goût en réalité virtuelle. C'est donc cette équipe de l'université de l'Ohio aux États-Unis qui a donc mis en place ce dispositif qui peut aussi restituer des goûts très simples lors d'une expérience en réalité virtuelle. C'est assez fascinant, bien évidemment. Au niveau de l'espace, l'Université de Californie explique que les problèmes de santé des astronautes de la Station spatiale internationale pourraient venir d'un environnement trop stérile. En fait, excusez-moi, la station spatiale... Pardon, je m'excuse. La station spatiale internationale, elle serait trop propre. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Il y a une étude des souches bactériennes présentes à bord qui montre, en fait, que justement, ça serait un petit peu trop stérile, cette étude. Elle suggère qu'introduire une plus grande diversité de microbes terrestres dans la station spatiale internationale contribuerait à améliorer la santé humaine dans l'espace. C'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire qu'on va être obligé de mettre dans l'espace les microbes qu'on a sur Terre parce qu'on se sentirait mieux. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est assez étonnant, on va dire. Mais bon, c'est totalement explicable, bien sûr. Et enfin, il y a l'université de Julius en Allemagne qui a travaillé sur des bactéries OGM, cette équipe allemande a voulu génétiquement modifier une bactérie particulière qui s'appelle Pseudomonas putida, qui est courante dans les sols. L'idée, c'est de les rendre capables de métaboliser les polyamides, en clair, c'est essentiellement le nylon, pour les transformer en biopolyester biodégradable et compostable. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on aurait été en mesure de pouvoir produire, et c'est ce que semblent avoir fait ces chercheurs allemands, d'avoir produire une bactérie qui serait capable de recycler le nylon. C'est assez intéressant parce qu'on sait que le nylon est difficilement recyclable, mais là, on aurait justement la possibilité de pouvoir avoir cette bactérie qui pourrait digérer justement ces fameux polyamides dont le nylon, je vais y arriver. Voilà ce que l'on découvre, notamment dans ces petites brèves de Science et Avenir. Allez, on va écouter encore un peu de musique et puis on va continuer comme ça ensemble à nous informer sur la science.
vois derrière le masque, tu vois derrière mes yeux, tu vois même le feu. Je sais lire ton visage, que tout le monde mieux, c'est le tien que je veux.
Les astres, c'était Laura Cahen sur l'antenne de Graphite. J'aime bien, je vais le garder sous le coude et on le rediffusera lors des prochaines émissions de Biotine. Je trouve ça assez sympa à vous écouter. Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, pour vous tenir informé de l'actualité scientifique, bien évidemment. La rediffusion le mardi matin à 10h. On va continuer ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec cette victoire et ce record qui concerne les éoliennes géantes. La Chine installe régulièrement des éoliennes gigantesques dont les pales font plus de 100 mètres de longueur. Et la Chine reste systématiquement sur la plus haute marche du podium avec ses monstres offshore. General Electric fait également partie des champions en la matière, mais cette fois, c'est Siemens qui remporte le concours de la plus grande éolienne installée dans le champ d'essai d'Osterbild. C'est au Danemark. Elle est colossale, l'éolienne Siemens. Elle s'étend sur une longueur de 276 mètres d'une pale à l'autre. Son énorme turbine peut développer une puissance de 21 mégawatts. Cette éolienne géante a été financée par l'initiative EPOV, qui est un prototype hautement innovant de l'éolienne offshore la plus puissante, et c'est une initiative de l'Union européenne. Et selon donc l'Union européenne, l'éolienne est suffisamment dimensionnée pour pouvoir alimenter jusqu'à 70 000 foyers danois par an, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le précédent record a été détenu pendant 7 mois par la Chine avec une éolienne de Mingyang Smart Energy qui avait une puissance nominale de 20 MW. Alors là, on est maintenant avec Siemens à 21,5. Mais comme ce concours international ne s'arrête décidément jamais, Siemens ne devrait pas conserver la couronne bien longtemps parce que la Chine a déjà annoncé l'arrivée prochaine d'une nouvelle éolienne conçue par une entreprise chinoise, une autre qui s'appelle Dofeng Electric, et sa puissance serait cette fois de 26 MW. De son côté, Mingyang, qui détenait donc le précédent record, a également annoncé son intention de construire des turbines d'une nouvelle génération, donc ça va être assez impressionnant bien évidemment. Les Américains, quant à eux, devraient avoir du mal à suivre la cadence en raison de l'impact des tarifs douaniers avec la Chine, car la chaîne d'approvisionnement mondiale des minéraux nécessaire à la construction de ces turbines est actuellement contrôlée par la Chine, bien évidemment. Et donc voilà, l'Europe gagne le record de l'éolienne la plus puissante du monde. Record provisoire apparemment, mais record quand même. Bravo et félicitations. Ensuite, Colossal Biosciences vient de franchir un nouveau cap dans son projet assez ambitieux de désextinction, je vais y arriver, du mammouth laineux. C'est le fait de ne plus procéder à l'extinction, la désextinction. Pas facile à dire comme ça au premier abord. Il y a quelques semaines, la société de biotechnologie a annoncé la naissance de souris génétiquement modifiées présentant des caractéristiques de résistance au froid, des caractéristiques similaires à celles des mammouths. Et donc ces souris laineuses, elles ont un pelage plus épais, plus ondulé, avec une pigmentation rousse et un métabolisme lipidique modifié. Et donc la survie de ces chimères valide ainsi des techniques qui pourraient à terme être appliquées à d'autres espèces. Les chercheurs ont utilisé les données issues de 121 génomes de mammouths et d'éléphants d'Asie pour essayer d'identifier les gènes qui sont impliqués dans les adaptations au froid. Puis ils ont ensuite appliqué des techniques avancées, dont la technique CRISPR-Cas9 qu'on avait déjà évoquée. C'est l'idée quelque part de faire son propre génome génétique quelque part, enfin d'assembler ces différents brins d'ADN pour en faire un génome spécifique, hein, si je traduis et je schématise grossièrement bien évidemment, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est d'avoir pu mettre en place cela et d'avoir pour essayer de modifier, d'identifier les gènes qu'il fallait et puis de pouvoir les incorporer. Donc parmi les mutations majeures, eh bien, il y avait l'inactivation d'un gène spécifique qui a provoqué un allongement de la phase de croissance du poil, ce qui a généré une fourrure 3 fois plus longue que chez les souris sauvages. Il y a d'autres modifications qui ont conféré au poil une espèce de texture un peu laineuse. Et pour changer la couleur des souris, eh bien, l'équipe a modifié un autre gène, cette fois qui était responsable de la production de mélanine. L'entreprise, elle ambitionne donc, hein, Colossal Biosciences, de déséteindre par exemple le dodo, le tigre de Tasmanie. Et cette entreprise estime que ces recherches serviront aussi à la sauvegarde d'espèces menacées. Et Beth Shapiro, qui est responsable scientifique du projet, explique « Nous pouvons utiliser les mêmes techniques pour, par exemple, restaurer la biodiversité des populations en déclin et aider les espèces à devenir génétiquement résistantes aux maladies. » Alors pour autant, il y a de nombreuses difficultés qui parsèment la route vers la désextinction du mammouth. Et bah, si elles sont toutes franchies, ce ne sera pas l'animal disparu qui sera ressuscité, mais un hybride issu d'un ovocyte d'éléphante d'Asie, un peu plus gras et poilu qu'un éléphanteau. Mais donc voilà, on a donc des gènes de mammouth qui ont permis de produire une souris laineuse. C'est une brève de Science et Avenir. Vous pouvez voir la photo de cette souris. C'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est une souris un peu à poil long. Comme un chat angora, mais c'est une souris. C'est assez étonnant. Pourquoi pas, mais que vous voulez, on n'est plus à ça près, en fait, quelque part, j'ai un peu l'impression. Plus rien ne nous surprend. Je crois que voilà. Autre petit article qui est assez intéressant, qui vient de Futura Science, qui donne les habitudes du soir des personnes qui vivent longtemps et heureux. Il faut savoir que nos comportements du soir façonnent notre qualité de vie bien au-delà d'une simple nuit de repos. Les psychologues ont démontré que certaines pratiques vespérales peuvent considérablement améliorer notre santé mentale, renforcer notre système immunitaire et même allonger notre espérance de vie. Les petits changements quotidiens s'accumulent pour créer des transformations profondes. Alors voici comment intégrer ces habitudes bénéfiques dans notre routine du soir pour essayer de cultiver une existence plus longue et plus heureuse. Le sommeil constitue bien sûr la pierre angulaire d'une vie saine et épanouie. William James, qui est le père de la psychologie américaine, affirmait que, je cite, « notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre est notre meilleure arme contre le stress ». Et donc cette faculté s'érode rapidement quand la fatigue s'installe. Il faut donc établir un horaire de coucher régulier qui va synchroniser notre horloge biologique. Votre corps produit alors des hormones au bon moment, notamment la mélatonine, qui facilite l'endormissement. Les recherches en chronobiologie montrent qu'un rythme veille-sommeil stable, ça réduit les risques de troubles métaboliques et cardiovasculaires. Il faut créer aussi un environnement propice au repos, une chambre fraîche, 16-19 degrés, ça suffit, chambre sombre, calme, et tout ça favorise un sommeil profond. Les neuroscientifiques ont prouvé que pendant ces phases de sommeil profond, notre cerveau consolide les apprentissages et élimine les toxines accumulées durant la journée. Il faut aussi lâcher prise sur les préoccupations du jour, ce qui permet à notre esprit de se régénérer, hein, c'est ce qu'expliquait Freud. Un jour, rétrospectivement, les années de lutte vous paraîtront comme les plus belles. Et donc, pour apprécier cette beauté, il faut d'abord savoir déposer ses fardeaux. La gratitude, elle transforme profondément notre perception du quotidien. Martin Seligman, qui est pionnier de la psychologie positive, a démontré qu'identifier 3 événements positifs chaque soir diminue significativement les symptômes dépressifs. Et donc cette pratique, elle réoriente notre attention via des aspects enrichissants de notre journée plutôt que sur ses défis. Il y a les techniques aussi de pleine conscience qui offrent un répit précieux. C'est-à-dire que 5 minutes de respiration consciente active le système parasympathique qui est responsable du calme et de la récupération. Les études d'imagerie cérébrale révèlent que cette pratique régulière modifie la structure du cerveau, renforce les zones associées à l'attention et réduit aussi les zones qui sont liées à l'anxiété. Bien sûr, on l'a déjà dit, ce n'est pas une nouveauté. Remplacer les écrans par des activités apaisantes constitue bien sûr un tournant majeur pour notre bien-être. La lumière bleue qui est émise par nos appareils, ça perturbe la production de mélatonine et ça retarde l'endormissement de 30 à 60 minutes. Il y a quelques alternatives qui sont bénéfiques. Lire un livre papier qui stimule l'imagination tout en calmant l'esprit. L'écriture dans un journal pour extérioriser les pensées persistantes. L'écoute de musique douce par exemple graphite, qui ralentit le rythme cardiaque, un bain tiède qui abaisse la température corporelle par contraste et des étirements légers qui relâchent les tensions musculaires. Il faut aussi abandonner la poursuite constante de la productivité qui constitue un paradoxe salutaire. Carl Rogers, qui est psychologue humaniste, rappelle que la vie épanouie est un processus, pas un état, une direction mais pas une destination. Il faut donc accorder à notre esprit des moments de repos qui le rend paradoxalement plus efficace pendant les périodes d'activité. Et puis ces habitudes du soir, ce n'est pas que des simples rituels. Ces habitudes constituent les fondations invisibles d'une existence épanouie. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de façon répétée. Et donc en transformant vos soirées, nos soirées, on pourra redessiner de façon progressive les contours de notre vie entière. Voilà quelques pistes pour nos habitudes du soir. On va essayer de les appliquer, bien évidemment. Allez, un peu de musique. On nous a dit qu'il fallait écouter un peu de musique douce. Là, je vais découvrir en même temps que vous. Est-ce que ça rentre dans la catégorie musique douce? On va voir.
Isoler les corps,
délit de faciès,
qui prend parti,
traitement de faveur,
amplifie la peur,
et ça recommence,
excès de zèle,
encore un frère,
manque à l'appel,
encore une sœur,
manque à l'appel,
manque à l'appel,
manque à l'appel, outrage, outrance, la foule écrit, entrave, déviance, la marche des cris, outrage, outrance, scandale, mépris, entrave, violence, la rage en prise.
Le conflit éclate sur un ossement de cils. La seconde après
se retrouve au sol,
sans retenue dans le silence de la nuit.
Roué de coups,
il appelle à l'aide,
on l'entend à peine.
Immobilisé jusqu'au point de rupture,
des appels à l'aide que l'on perçoit à peine.
Avec connivence,
tout est permis,
de toute évidence,
tout est permis.
Sous les privilèges,
toutes les défiances,
sous les uniformes,
toutes les déviances.
Les minutes se figent,
des appels à l'aide que l'on perçoit à peine.
Sous la contrainte,
les murs étouffent la succession de cris. Au-delà des rapports,
au-delà des recours,
devant la cour,
des jugements en cours sans le moindre remords.
Des ravages encore,
des ravages encore,
des ravages encore. Poussés de haine,
les mêmes rengaines. Au-delà des rapports,
visez les mêmes, visez les mêmes, visez les mêmes. Outrage, outrance, la front, les cris, entrave, déviance, la marche des cris. Outrage, outrance, scandale, mépris, entrave, violence, la rage en prise.
Abus de pouvoir,
isoler les corps,
délit de faciès,
qui prend parti,
traitement de faveur,
amplifie la peur,
et ça recommence,
excès de zèle,
encore un frère,
manque à l'appel,
encore une sœur,
manque à l'appel,
manque à l'appel,
manque à l'appel. Outrage, outrance, la foule écrit, entrave, déviance, la marche des cris. Outrage, outrance, scandale, mépris, entrave, violence, la rage en prise.
Clamer, clamer si fier,
le dégoût des flics, l'aversion pour les déroutés vite.
Leur impunité
perpétuée,
impunité
à perpétuité,
toujours acquitté, jamais destitué.
Encore un mort,
encore une morte,
encore un corps
vient de tomber, et la liste est longue, la liste plombe, elle pèse une tombe. Et quand est-ce qu'ils arrêteront de nier les faits?
Quand est-ce qu'ils arrêteront de nier les faits?
Quand est-ce qu'ils arrêteront de nier les faits? La bavure, la censure, du sang sur la censure.
Par toutes les dérives que l'on saura jamais.
La bavure, la censure, du sang sur la censure. Et tous les déboires qui resteront secrets. Ces ruelles sombres où personne pourra voir.
Des rapages en cours.
Dans une cellule au fond d'un couloir.
Des rapages encore.
De la fenêtre fermée, aucun son ne sort.
Des ravages en cours,
isoler les corps.
Des ravages encore,
des ravages encore, des ravages encore.
Outrage, outrance, la foule écrit, entrave, déviance, la marche des cris. Outrage, outrance, scandale, mépris, entrave, violence, la rage en prise.
Alors, nous sommes bien d'accord. Ce n'est pas Astral Compost que l'on vient d'écouter avec le titre Outrage, qu'il faut donc écouter au moment de cette phase du soir quand on s'apprête à s'endormir. Si j'ai bien compris les résultats de cette étude, normalement non. Mais on écoute Astral Compost à un autre moment de la journée sur l'antenne de Graphite. J'aime bien parce que c'était totalement pas prévu, évidemment. On a une playlist que l'on... voilà, on choisit un peu les titres au hasard. En tout cas, c'est ce qui me concerne. Moi, je découvre beaucoup de titres vraiment intéressants dans cette émission parce qu'il y a quand même des sources de musique au sein de Graphite vraiment intéressantes. Mais là, voilà. Donc, Astral Compost, Outrage. Je me suis dit, ça se trouve, ça peut être quelque chose de très doux et mélodieux. Bon, c'était pas nécessairement très doux, mais ça restait mélodieux et très sympa. Astral Compost sur tête de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Pardon, mais non, mais ça surprend en fait. Parce que quand j'ai lancé le titre, je me suis dit, ok, d'accord, c'était pas ça qu'il fallait mettre pour illustrer, quoique on n'en sait rien. 12h, 13h tous les samedis, on consulte la revue de presse Actualité Scientifique qui va parler des dinosaures. Les années 1980 ont vu l'essor de deux hypothèses concurrentes en ce qui concerne la brutale disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. La première hypothèse faisait intervenir la chute d'un petit corps céleste d'environ 10 km de diamètre. La matière sous forme de poussière éjectée par l'impact creusant quand même un trou assez important, aurait alors bloqué le rayonnement solaire, ce qui provoque un effondrement de la chaîne alimentaire. Le scénario alternatif, lui, repose aussi sur un effondrement de la biosphère, mais provoqué par des émissions de gaz, essentiellement du dioxyde de carbone, pendant quelques millions d'années, et tout ça issu des colossales éruptions à l'origine des plateaux basaltiques du Dékan, c'est en Inde. Et au début des années 1910, on découvre enfin le cratère d'impact géant prédit par le premier scénario. Il se trouve dans une région du Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Depuis, même si la majorité des géologues favorisent l'hypothèse de l'impact, eh bien les débats continuent quand même quant à savoir quel scénario a vraiment l'explication principale. Il y a des données qui ont ainsi laissé penser que la phase principale des éruptions du Dékan en Inde est postérieure à cette fameuse limite KT, c'est-à-dire le Crétacé, le Tertiaire, qui marque par une strate mondiale la fin des dinosaures. Il y en a d'autres qui suggèrent que c'est la chute du corps céleste qui, en générant des ondes sismiques, a boosté de l'autre côté de l'hémisphère l'activité volcanique de cette fameuse zone du Dékan. Enfin, il y a certains qui avancent qu'il y a bien deux tueurs, mais que l'impact d'un astéroïde ou d'une comète n'a été que le coup de grâce à une biosphère déjà bien affaiblie par les éruptions volcaniques massives. Alors, pour compliquer le tableau, les données paléontologiques suggéraient depuis quelque temps que la biodiversité des dinosaures était déjà en déclin depuis presque 10 millions d'années, ce qui laisse penser qu'un troisième tueur était aussi présent, par exemple avec des régressions marines comme celle de la mer de Niobrara ou la mer intérieure nord-américaine, une immense mer qui divisait l'Amérique du Nord en deux continents pendant le milieu et la fin de l'ère du Crétacé. Et donc, le prix Nobel de physique Luis Alvarez, avec l'aide de son père et surtout des chimistes Frank Azzaro et Helen Mitchell, tous de l'université de Berkeley aux États-Unis, ont tous entrepris donc de faire parler la couche en la datant et en l'analysant précisément. Et c'est ainsi que tous ces chercheurs ont découvert, à leur grande stupéfaction, que cette strate contenait une quantité anormalement élevé d'un élément rare à la surface de la Terre, l'iridium. C'est un métal, et ce métal, en revanche, il est assez abondant dans les comètes et les astéroïdes. C'est pourquoi Walter Alvarez n'hésita pas à proposer à ses collègues, nous sommes en 1980, que la crise biologique survenue il y a 66 millions d'années était due à la chute sur la planète d'un petit corps céleste. La découverte au début des années 90 de l'astroblème de Chicxulub allait leur donner raison, malgré le scepticisme un peu initial d'une bonne partie de la communauté des géosciences. Il y a certains chercheurs qui en tirent encore une autre conclusion, à savoir que même sans ces événements, les dinosaures évoluaient naturellement vers leur extinction. Et c'est justement cette dernière hypothèse qui vient d'être exposée sous un jour nouveau, donc on est voilà, dans les années 2025. Il y a un article qui a été publié dans la revue Current Biology, qui est le produit d'un travail de recherche mené par des membres de l'Université de Londres, qui donc publie un communiqué qui accompagne cet article. Et donc, ce qui est intéressant, intéressant, pardon, c'est que l'auteur principal, Chris Dean, explique que cela fait débat depuis plus de 30 ans. Les dinosaures étaient-ils condamnés ? Étaient-ils déjà en voie de disparition avant l'impact de l'astéroïde ? Alors, il explique, nous avons analysé les archives fossiles et constaté que la qualité des archives de quatre groupes de dinosaures se dégrade au cours des 6 derniers millions d'années qui précèdent l'impact. La probabilité de trouver des fossiles de dinosaures diminue, tandis que la probabilité que des dinosaures aient vécu dans ces régions à cette époque reste stable. Cela montre que nous ne pouvons pas prendre les archives fossiles au pied de la lettre. La moitié des fossiles dont nous disposons de cette époque ont été découverts en Amérique du Nord. Nos résultats suggèrent que dans cette région du moins, les dinosaures se portaient peut-être mieux que ce que l'on supposait avant l'impact de l'astéroïde, avec potentiellement une diversité d'espèces plus élevée que celle observée dans les archives géologiques brutes. Alors, pour atteindre ce résultat, les spécialistes en géosciences, ils ont analysé les données qui concernaient plus de 8000 fossiles d'Amérique du Nord qui provenaient d'êtres de dinosaures qui vivaient au cours des 18 millions d'années qui précédaient l'impact de l'astéroïde. Nous sommes au niveau de la fin du Crétacé, pour ceux qui arrivent à se situer au niveau du temps avec ces grandes aires géologiques. Et donc, ces spécialistes ont montré qu'il ne fallait pas en conclure naïvement que le nombre d'espèces de dinosaures avait atteint son apogée il y a environ 75 millions d'années et puis qu'il avait diminué ensuite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Alessandro Cialenza, qui a donc participé à cette à cette étude et qui avait déjà travaillé sur la diversité et l'extinction des dinosaures à la fin de Crétacé, il explique « Dans cette étude, nous démontrons que ce déclin apparent résulte plus probablement d'une fenêtre d'échantillonnage réduite causée par des changements géologiques dans des couches fossilifères du Mésozoïque terminal. » Bref, ça veut dire que les dinosaures n'étaient probablement pas inévitablement condamnés à l'extinction à la fin du Mésozoïque, et que sans l'astéroïde, ils auraient encore partagé cette planète avec les mammifères, les lézards et leurs descendants survivants qui sont les oiseaux. En clair, les dinosaures, notamment en Amérique du Nord, semblaient en déclin, mais il s'agissait d'un biais causé par le fait que les conditions de fossilisation avaient changé et qu'il était plus difficile d'avoir des roches témoignant de la présence des dinosaures. Mais en analysant cette présence à l'échelle des régions qui ont été étudiées, on trouve que la proportion de territoires probablement occupé par ces dinosaures, est restée globalement constante, ce qui suggère que leur zone d'habitat était restée stable et que le risque d'extinction était resté faible, ce qui oriente bien vers l'hypothèse d'un biais dans les roches récoltées. C'est assez intéressant parce que quelque part, ça remet en cause pas mal de préjugés ou d'affirmations, d'ailleurs, ou d'hypothèses qui semblaient avoir été établies. Les dinosaures n'étaient probablement pas condamnés à disparaître, même sans l'impact d'astéroïdes. C'est un petit peu la conclusion de cet article de Futura Science, assez intéressant pour ceux qui aiment les dinosaures, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce qui est assez intéressant dans ces articles, c'est que on a parfois des choses qui sont un petit peu. On avait évoqué les empreintes digitales où finalement on se rend compte que ça n'est pas nécessairement ce qu'on pensait depuis plus de 150 ans et qu'on était dans une idée de pouvoir faire évoluer certains préjugés qui avaient été justement acquis, et bien là, c'est pareil au niveau des dinosaures. Alors évidemment, c'est un article, c'est une étude, c'est pas cette étude qui va remettre tout en cause, hein. Vous savez bien qu'au niveau de la science, il faut quand même confirmer et reconfirmer les hypothèses, mais en tout cas, ça peut être une piste assez intéressante, bien évidemment. Allez, c'est la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve bien sûr samedi prochain et on va continuer comme ça à feuilleter la révolution. On va fêter la révolution, non, on va feuilleter la revue de presse. Il y a un moment, je ne sais plus ce que je raconte, la revue de presse de l'actualité scientifique, bien évidemment. On passera sur plusieurs articles assez intéressants, et notamment la fin des tests cosmétiques sur les animaux. Apparemment, c'est quelque chose qui se mettrait en place. Et puis, il y a des chercheurs qui ont ressuscité le loup géant. On n'avait pas entendu son hurlement depuis 13 000 ans. On verra ça la semaine prochaine, dans la prochaine édition de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur graphite.net avec la possibilité de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr, et aussi sur la bande FM, le 94.9. Je vous souhaite de passer un bon samedi, un bon week-end de Pâques, bien évidemment aussi, et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission. À bientôt, bonne journée, au revoir.